Alors voilà, on est à la fin d'une année, au commencement d'une nouvelle, et c'est incroyable de se dire qu'on est en 2018, non ? Enfin, quand on se dit, on est en 2018. Imaginez il y a 30 ans, demain, tu as raison, il y a 30 ans, on regardait l'an 2000, là, on se disait, oh là là, c'est le futur, c'est loin, et puis hop, c'est passé comme une fleur. Mais on est presque en 2020, c'est incroyable. Dieu nous donne de vivre un peu plus sur cette terre. Alors bien sûr, on ne sait pas de quoi sera fait 2018. Et c'est mieux ainsi. Dieu ne nous demande pas de spéculer ou de s'inquiéter. Simplement de le servir et d'essayer de progresser avec lui, de faire mieux durant cette année 2018. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble un chapitre de Philippiens pour nous encourager pour cette nouvelle année. Alors je pense qu'en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée, il y a des buts pour l'année 2018. Là, la grâce de Dieu nous a donné un nouveau local. Qu'on puisse évangéliser, avoir du zèle, parler du Seigneur, inviter, prier, Seigneur, sauve des âmes. Voilà, c'est notre objectif en tant qu'Assemblée. Mais le chapitre que j'ai choisi ce matin ne parle pas de cela, ça a plutôt trait à la vie personnelle. Alors qu'est-ce que Dieu attend de nous pour 2018? Et j'aimerais partager avec vous quelques encouragements ou des exhortations, des recommandations qui peuvent nous aider pour cette année 2018. Alors Philippiens, et on va lire le chapitre 3 en entier. Philippiens chapitre 3, ça va Kyung? Philippiens 3, il faut qu'il fasse ses armes, c'est la deuxième fois qu'il est là. Super. Il est dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, hein, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Quel beau passage, on va s'incliner dans la prière. Seigneur éternel, merci. Merci pour ta parole. Elle est vraie, elle est solide, elle est nourrissante. Seigneur, elle nous éclaire, elle nous enrichit. Que tu veuilles la bénir, s'il te plaît, encore. Que tu donnes encore ta grâce, que tu me caches en toi, s'il te plaît. Que tu me donnes ta liberté, ta paix, Seigneur, et que tu portes chaque chose. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, comme cela a été rappelé encore ce matin. Bénis-nous, Seigneur, à cause de Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne vais pas prendre chaque verset de ce chapitre, mais j'ai retenu quelque chose, plusieurs choses salutaires pour nous, pour 2018. Alors, la première, c'est au premier verset, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est la première chose que nous lisons. Et on peut éprouver de la joie dans bien des domaines, mais la recommandation de Dieu, c'est de se réjouir dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est-à-dire en lui, de lui. Ce que Dieu veut qu'on connaisse et éprouve, c'est la joie en fait que donne le Saint-Esprit. Hein? Se réjouir dans le Seigneur, c'est une joie qui vient de l'Esprit de Dieu. Il veut qu'on se réjouisse des choses qui viennent de lui, qui procurent de la joie en lui. Qu'est-ce qui procure la joie dans le Seigneur? D'entendre la voix de Dieu. Ça, ça procure de la... Voilà, il y a une joie quand vous recevez un verset. Oh, ça vous fait du bien, quoi. Hein? Oh, Seigneur. Oh, c'est une nourriture. D'ailleurs, on le souligne parce qu'on veut s'en souvenir. On veut réouvrir sa Bible, le relire. Et ouais, le Seigneur m'a parlé. Parfois, on met la date hein, dans la Bible. Certains mettent la date. Le Seigneur m'a donné ça. Ouais, je l'ai reçu, c'est à moi. Oh, voilà, il y a une joie dans le Seigneur. Quand Dieu parle, l'esprit est rassasié. Qu'est-ce qui procure la joie dans le Seigneur? Ben de chanter des cantiques, hein, de se nourrir de paroles spirituelles, chanter, écouter des paroles inspirées. Ça c'est des choses qui réjouissent Dieu, en fait. Hein, donc, qui réjouissent le Saint-Esprit. Et quand bien, l'Esprit est voilà, réjoui, ben, le cœur est réjoui, l'âme est réjouie. Hein, c'est notre esprit. Tout ça, ça nous porte. Hein. Vous savez qu'il est dit, « Soyez remplis de l'Esprit. » Mais juste après... Il dit, ben, comment être rempli de l'Esprit? Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Parce que ça plaît à Dieu. La louange, l'adoration, les cantiques. Voilà, et Dieu, il remplit un cœur qui est plein de louanges. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on écoute? Une bonne question. Est-ce qu'on se réjouit dans le Seigneur? Ou on se réjouit d'autre chose? Qu'est-ce qui procure de la joie dans le Seigneur? C'est encore de vivre la communion fraternelle. On est né de nouveau, pas pour vivre seul, isolé, comme des ermites, loin du corps de Christ. Je sais qu'on n'est pas tous identiques. Certains sont très sociables et d'autres le sont moins. Ils sont un peu plus solitaires. Mais l'amour de Christ nous pousse à être ensemble, à nous voir, à communier en fait régulièrement. C'est mettre en pratique le plus grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Pour s'aimer, ben, il faut être ensemble. Hein. C'est important. Et ça réjouit le cœur de Dieu de voir ses enfants qui s'aiment et qui marchent ensemble. Il y a du bonheur, il y a de la réjouissance dans la communion fraternelle. Qu'est-ce qui procure de la joie dans le Seigneur? De comprendre des nouvelles vérités bibliques. Quand il y a une chose que voilà, Dieu vous éclaire et vous comprenez une vérité, ça vous fait du bien. L'âme se réjouit, le cœur se réjouit, quand on étudie la parole, ou bien quand on écoute quelque chose qui est riche d'enseignements bibliques, ben ça nous réjouit. Un peu plus de lumière, un peu plus de compréhension en fait. Hein. On marche un peu plus dans la vérité, ça nous fait du bien. Qu'est-ce qui procure de la joie dans le Seigneur ? D'avoir une communion avec le Seigneur dans la prière. Peut-être que vous ne le vivez pas aujourd'hui, mais vraiment, ça procure de la joie d'avoir une communion avec le Seigneur dans la prière. Quand on pense à la prière c'est souvent la grande délaissée dans la vie chrétienne. Mais quand on prie efficacement par le Saint-Esprit et qu'on se relève, on sait, voilà, je peux me reposer, et tout est entre ses mains, ben, voilà, il y a la paix, il y a la joie. Dieu va agir. Ça procure une joie dans le Seigneur. C'est la joie d'une communion saine et réelle avec le Seigneur. Qu'est-ce qui procure de la joie dans le Seigneur ? C'est aussi de se remémorer toutes les promesses et toute l'espérance qu'il y a en Jésus-Christ. Voilà, il y a plein d'espérances dans les Écritures, plein de promesses. Et quand on remet ça dans notre esprit, ben voilà, ça nous donne aussi beaucoup de joie. Il y a plein de sujets de se réjouir dans notre monde. En fait, tout est fait pour nous distraire et essayer de nous donner du plaisir, essayer de nous donner de la joie. C'est pour ça que certains ne veulent même pas se donner la peine de chercher le Seigneur, parce que ben, ils ont plein de joie dans ce monde matériel. Voilà, ils éprouvent une certaine joie, une certaine satisfaction, ils sont contents. Donc voilà, c'est bientôt les soldes. Super, hein mais Dieu ne nous appelle pas, même si voilà, y a des joies saines hein, qu'on peut aussi partager. Dieu ne nous appelle pas à nous réjouir que de ça. Il veut qu'on se réjouisse en lui, dans le Seigneur. Dieu nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Regardez Philippiens 4, verset 4. Il reprend et il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous ». C'est quand même fort ça. Hein? Il insiste. Il y a d'abord ce « toujours ». C'est une constante. Il faut que vous vous réjouissiez tout le temps dans le Seigneur. C'est-à-dire, ben, vous demeuriez dans les choses du Seigneur, en fait. Hein? Dans tout ce qui le concerne, lui. Pour vous réjouir continuellement de lui, par lui, en lui. Je le répète. C'est pas suffisant de dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Non, je le répète. Il insiste. C'est important. Pour 2018, voilà, qu'on garde ça dans notre cœur. Qu'on se réjouisse toujours dans le Seigneur, des choses du Seigneur. Une bonne santé spirituelle, ça s'entretient par le fait de se réjouir dans le Seigneur. C'est se focaliser sans cesse vers les choses d'en haut. La deuxième chose se trouve, j'aimerais relever, se trouve à partir du verset 7 à 11. Philippiens 3, verset 7 à 11. Il dit ici, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alors on connaît ce passage un petit peu avant où Paul explique qu'il a renoncé à tous ses avantages naturels. Voilà, en tant qu'homme, voilà, il était juif, pharisien, on a lu tout cela, hein. Mais pourquoi il a renoncé à tout cela ? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Son objectif le plus grand, le plus important, connaître Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que c'est que cette connaissance de Christ ? Est-ce que c'est connaître qu'il existe ? Est-ce que c'est connaître ses attributs, connaître sa vie, connaître ses paroles, connaître son histoire? c'est pas, même si on peut trouver certaines choses ici, c'est pas ça. C'était une connaissance intime, une connaissance par expérience en fait, une connaissance par la vie de Christ en lui que Paul voulait voir se manifester. Il voulait voir Christ vivre en lui, c'est ça la connaissance de Christ. Et Paul nous parle d'une connaissance qui passe par deux choses, hein. Il dit verset 10, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » Et Paul parle à la fois de la puissance de la résurrection et en même temps de la communion de ses souffrances. Alors la puissance de la résurrection, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est enthousiasmant. C'est Jésus-Christ qui vit en nous par son esprit. C'est la vie de Dieu qui coule en nous et qui va se manifester dans tous ses aspects, dans la sagesse, dans l'amour, dans la grâce, dans la miséricorde, la puissance, l'efficacité, le fruit. Vous savez, quand vous faites quelque chose ou vous disiez quelque chose ou vous dites quelque chose, pardon, et c'est parfait. Voilà, vous faites quelque chose, c'est parfait. Vous savez que le Seigneur l'a fait au travers de vous. Parce qu'il n'y a rien à ajouter, c'est vraiment, voilà, carré. Ben, ça réjouit de voir Dieu en action. Dieu qui fait quelque chose au travers de vous. Et quand on goûte à la vie de Christ en nous, eh bien c'est quelque chose de merveilleux. Quand vous voyez Dieu se servir de vous pour quelque chose, après vous dites, mais c'est ça que je veux. Je veux rien d'autre. Je veux qu'il vive. Qui vivent en moi. C'est le meilleur, je ne veux rien d'autre. C'est ça la vie, la vraie vie. Mais la puissance de la résurrection, elle est associée à la communion de ses souffrances. Paul parle de devenir conforme à lui dans sa mort. Conforme à lui dans sa mort. Et ça nous parle de la croix, du renoncement, de la mort à soi-même. Et le chrétien qui marche avec Jésus, ben c'est celui qui renonce continuellement à lui-même. Il renonce à vivre sa vie propre. C'est celui qui sacrifie pour le Seigneur. Il accepte de mourir à ses désirs, à sa volonté. Et ce n'est pas qu'il est continuellement dans la tristesse, avec un visage de mort, hein, je suis mort avec Christ, je ne fais plus rien. Non, ce n'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Mort avec Christ. Mais c'est qu'à chaque fois que Dieu lui demande, il accepte et il meurt. Il dit « Ok Seigneur ». À chaque fois que Dieu lui demande. À chaque fois qu'il faut lâcher, à chaque fois que Dieu lui demande d'obéir, de se taire par exemple, de ne pas rendre le coup, à chaque fois qu'il faut pardonner, à chaque fois qu'il faut aimer, qu'il faut renoncer, ben le chrétien qui marche, il accepte. Baisse la garde, il accepte. Il se courbe et il s'associe aux souffrances de Jésus-Christ, hein, parce que parfois c'est difficile. Hein. Dieu nous impose parfois des choses difficiles, mais il accepte. Le Seigneur, vous savez ce que dit Philippiens, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et vous savez, l'enfant de Dieu, il apprend à renoncer sans aigreur, sans amertume, sans regret. Pourquoi ? Parce que, Seigneur, tu me demandes, c'est le meilleur, je l'accepte. Et on sait que Dieu est bon, on sait que sa volonté, c'est le meilleur, il n'y a pas mieux. Et si Dieu, à un moment, nous dit, arrête, laisse, on lâche. Et on dit, ok Seigneur, et on prend un autre chemin. On prend la direction que le Seigneur nous veut pour nous, pardon. Et quelle délivrance de savoir lâcher. Quelle délivrance! Vous savez, quand vous vous agrippez à quelque chose et vous contestez, vous bataillez avec Dieu, on est malheureux, hein, on n'a pas la paix. Hein. Mais quand on lâche, on dit « Ok Seigneur, je me courbe, j'obéis. C'est la paix, la paix. Se courber avec humilité quand Dieu nous le demande. On ne peut pas connaître la puissance de la résurrection si on n'accepte pas la communion à ses souffrances. Paul nous parle de cela comme étant un tout, en fait. Voilà. Ainsi, je connaîtrai Christ et la communion à ses souffrances. Les deux. Alors, il dit, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Alors là, ça fait couler beaucoup d'encre. On se dit, mais comment ça? Si je puis, à la résurrection des morts. Alors, ce n'est pas, bien sûr, qu'il était... qui craignait de ne pas participer à la résurrection des morts. Et donc, il pensait ne pas être sauvé. Quand vous lisez tout ce qu'a écrit l'apôtre Paul, c'est une évidence que Paul ne parle de l'assurance du salut, de l'assurance de la vie éternelle. On est sûr d'être sauvé, c'est pour l'éternité. Et Dieu merci, il y a suffisamment de versets qui en parlent. Donc, s'il y a un verset où là, il y a une ambiguïté, il ne faut pas le prendre et en faire une doctrine. Ça ne serait pas une bonne chose. Alors, il y a plusieurs, peut-être, manières de penser. Qu'est-ce que Paul a voulu dire? Il semble qu'il veuille dire plutôt qu'il souhaite être au plus près dans cet état de sanctification, dans la connaissance de Christ, au jour de la résurrection. C'est une possibilité. Tout le passage, ça nous parle de parvenir à la perfection en Christ, de saisir le prix de la vocation céleste. Ça, c'est ce que Paul vise. J'y suis pas encore, mais je vise ça. Et dans ce contexte, il souhaite être au plus près du but, en fait, au jour de sa résurrection. Peut-être est-ce cela qu'il voulait dire. Ensuite, la troisième exhortation qu'on peut retenir, c'est verset 12 d'abord. Il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Paul courait. Est-ce que nous courons aussi? Nous courons dans cette course chrétienne pour remporter le prix de la vocation? Verset 14, il reprend, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et il y a un prix, il y a une récompense à vouloir que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. On veut que Dieu fasse tout ce qu'il veut dans notre vie. Vous savez, il y a cette prière du Notre Père où il dit « Que ton règne vienne. » Mais le règne, c'est d'abord ici. Que Dieu règne d'abord là, dans mon cœur, acceptant continuellement sa volonté. Que Dieu soit le premier dans notre vie. C'est désirer que les objectifs de Dieu soient atteints en nous. Il est écrit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », nous dit Jésus. Et donc, courir, remporter le prix, c'est ne jamais être satisfait de là où nous sommes. On n'est jamais satisfait. On peut toujours faire mieux. On peut toujours progresser. On peut aller plus près de la perfection. On souhaite aller plus loin. Que Christ règne davantage en nous. Et que tout ce qui est indigne, mauvais, disparaisse, soit englouti, par sa vie. Et Dieu nous donne une année, peut-être, nous donne une année pour aller plus loin, pour ressembler davantage au Seigneur Jésus. Et c'est une grâce qu'il nous fait. Qui peut dire, ça y est, c'est bon, je suis arrivé là, j'ai atteint la perfection. Même Paul, qui est pour nous le plus grand des exemples, celui qui, quand on le regarde, on cherche ses défauts, il ressemblait à Christ en bien des points, dans son amour, la compassion, la miséricorde, la persévérance, l'endurance. Endurance dans ses souffrances, et il dit, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours, je veux aller plus loin, je veux m'y approcher. Alors, courons, que ce soit l'objectif, qu'on ne se satisfasse pas de là où nous en sommes, mais qu'on se repente et qu'on continue à avancer, et qu'on soit plus près de la perfection, le jour où il nous prendra. Mais il y a une chose importante pour rester motivé dans l'espérance, c'est le verset 13. Il dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Et quand on regarde l'année passée, eh bien parfois on se dit, on est découragé, quoi. On peut être découragé. Parce qu'on n'a pas été parfait en tout point. C'est une évidence, hein. On repasse l'année devant nos yeux et il y a peut-être des choses qui restent en mémoire. Ben, des chutes, hein, voilà, des manquements, des péchés, des crises, des regrets. Paul le dit lui-même, il n'était pas parfait, comme nous ne le sommes pas, mais il restait pas sur son passé, sur ses manquements, voilà, à ressasser le passé, non. Il a avancé. Il se portait vers l'avant en disant, voilà, je progresse, hein, et je vais encore progresser. Bien sûr, oublier le passé, hein, c'est pas pour se déculpabiliser en disant, bon, c'est pas grave, je recommence demain. Hein, c'est pas ça. C'est... j'oublie le passé pour me porter en avant, hein, vers la progression. Vers la progression. Oublier et progresser. C'est la décision de ne pas se morfondre sur le passé, tout en prenant la décision de bien faire, faire mieux pour le futur. Quatrième exhortation, verset 17. Il dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » C'est bien d'avoir un modèle, un exemple, autre, bien sûr, que le Seigneur Jésus. Hein. Le modèle suprême, c'est évidemment notre Seigneur Jésus. Mais ici, il nous parle de prendre des modèles humains, des hommes. Alors, on parlait de cet exemple, Paul, c'est un exemple. D'ailleurs, il n'a pas honte de le dire. Pourquoi ? Parce que c'était Christ qui faisait tout ça en lui. Hein. Il était ce qu'il était par la grâce de Dieu. Il le dit. Donc, il dit, ben voilà, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alors, ben, prenez-moi pour modèle. Et on peut le prendre pour modèle. Soyez tous mes imitateurs, frères, il dit. Et on est ainsi fait que, voilà, on regarde les autres et on peut prendre pour modèle les uns et les autres. Alors, c'est particulier dans l'adolescence, hein, où là, on est en train de se chercher soi-même, hein, et on va copier quelque chose chez l'un, copier quelque chose chez l'autre. Hein. Mais, vous savez, même les adultes, hein, ils se copient, ils voient, voilà, hein, la mode. La mode, c'est quoi, ça ? Ben, c'est ça, hein. On regarde, on voit une couleur, une matière, une coupe, et voilà, et puis on copie, hein, on se dit, oh, tiens, ça, c'est pas mal. Et voilà, on prend des modèles, hein, ou bien le voisin, c'est souvent ça, vous voyez le voisin qui a un truc, puis 15 jours plus tard, l'autre voisin a la même chose. C'est curieux. Hein. Et Dieu veut qu'on continue à prendre exemple, à rechercher des modèles à imiter, mais plutôt imiter ceux qui marchent avec Jésus-Christ. C'est ça. Par exemple, vous voyez quelqu'un de toujours positif. Oh, je veux être comme ça. Je veux être positif. Je veux voir le bon côté des choses. Vous voyez quelqu'un de doux qui prend un coup, il ne le rend pas. Et même il demande pardon. Oh, je veux être doux comme Christ. Hein. La douceur vient de Christ. Hein. Vous voyez quelqu'un qui prie avec persévérance, se lève tôt, il intercède. On le prend pour modèle. On a envie, voilà, de me rapprocher du Seigneur. On y trouve un encouragement pour sa vie de prière. Vous voyez quelqu'un qui lit la parole, qui la connaît sur le bout des doigts. Oh, ça me motive. J'ai envie de lire davantage les Écritures. J'y trouve un modèle. Vous voyez quelqu'un qui souffre et qui ne se plaint pas, qui ne gémit pas, qui remercie le Seigneur. Oh, un modèle. Pour supporter nos propres souffrances. En fait, il faut prendre les bons modèles. Sinon, on ne va jamais progresser. C'est certain. Parfois, vous savez, il y a le contraire. On voit un chrétien qui se permet de faire quelque chose parce qu'il ne va pas bien, parce qu'il n'obéit pas au Seigneur. On se dit, bon, si lui le fait, moi aussi. Et hop, on le prend pour modèle. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Portez les regards sur ceux qui marchent avec Christ. Ceux qui sont fidèles, en fait. Ceux qui brillent par l'obéissance et par la consécration. En fait, Enfin, je termine avec une dernière exhortation, versets 20 à 21. Il dit, « Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Et pour cette nouvelle année 2018, eh bien, on peut garder dans nos cœurs le retour du Seigneur. On en a parlé un petit peu ce matin, mais que ce soit encore plus présent dans notre cœur. Vous savez ce que dit l'apôtre Jean ? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il y a une purification qui s'opère, hein, parce que on est dans l'attente. Il dit dans ce passage, nous sommes citoyens des cieux et non de cette terre. Parfois, on l'oublie. C'est vrai, on vit sur la terre, il y a des responsabilités, il y a plein de choses. On va à l'école, on va à l'université, on va travailler, on doit acheter à manger, on doit faire à manger, on doit repasser, on doit laver son linge. Il y a plein de choses que l'on fait qui nous ramènent sans cesse aux choses de la terre. Mais il ne faut pas l'oublier, on est des citoyens des cieux. On appartient au ciel par l'Esprit qui est en nous. Nous sommes déjà dans les cieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on l'attend. Il faut l'attendre. Parfois, on attend un colis et on est là, fébrile. On a reçu une notification, un email, un coup de fil pour dire « Le livreur est... Oh, » On regarde. « Je vais le rater. Ben, je dois sortir. » Eh bien, il faut attendre le Seigneur. Il faut être dans l'attente du Seigneur. Prêt à rencontrer notre Seigneur. Certes, peut-être viendra-t-il en 2018, peut-être pas, on ne sait pas, mais on ne sait pas non plus si on va vivre toute l'année 2018. Hein? On voit ça, hein? On voit comment une vie s'arrête hein, soudainement parce que Dieu dit, ça y est, ton temps est fini. Alors, eh bien, finalement, ça renvoie le Seigneur à la porte de chacun. Le Seigneur est là, il est près de nous et on est bientôt avec lui. Hein. Alors, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire hein, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Quelle promesse! Quelle promesse merveilleuse! Ça, c'est le corps de notre humiliation. Et c'est vrai, il nous humilie, hein, ce corps. Il nous humilie beaucoup par ses péchés, par une mauvaise attitude, par une mauvaise réaction, par la langue, un mauvais comportement. Mais on sait que sa divine puissance va triompher, va nous délivrer complètement de la chair. Et Jésus va nous rendre semblables au corps de sa gloire. La délivrance! Au ciel, je ne pécherai plus. Hein, c'est ce que dit le cantique. On sera semblable à lui. Plus de péché, plus de défauts, plus rien ne nous fera souffrir quand il nous transformera. Quel beau jour ce sera quand Jésus reviendra, dit encore un cantique. Alors, eh bien, pour cette année 2018, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est ce que Dieu nous dit. Il faut rester dans les choses que l'Esprit approuve et qui procurent cette joie du Saint-Esprit. Ensuite, il faut accepter de lâcher, de renoncer, de pas... Non, Seigneur, tu veux pas ? C'est pas grave, hein ? C'est pas grave. J'accepte. Pour mourir avec lui, connaître eh bien, ses souffrances, et puis vivre aussi la puissance de sa résurrection. Que notre objectif, ça soit de courir pour remporter le prix de la vocation céleste et s'approcher un petit peu plus de la perfection. Voilà, progresser un tout petit peu plus, un petit peu plus encore. On grappille, hein, on avance. Porter ensuite les regards sur ceux qui marchent fidèlement. Être leurs imitateurs et puis être dans l'attente. Voilà. attendre le Seigneur Jésus qui va nous transformer par sa puissance, par la puissance qu'il a de pouvoir s'assujettir toutes choses. On va avoir un moment de prière, si vous voulez.